et nous débutons par le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un train secret, puis un accueil en grande pompe à Pékin. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a accordé sa première visite de chef d'État à l'étranger à la Chine, signe de la volonté de rapprochement des deux alliés historiques avant le sommet prévu entre Kim Jong-un et Donald Trump, son homologue aux États-Unis.
La France rend hommage au héros Arnaud Beltrame, ce gendarme qui a pris la place d'une otage lors de l'attaque au Super U de Trèbes vendredi dernier, mort des suites des blessures infligées par le terroriste.
À la une également, les suites du scandale Facebook et l'utilisation indue de données personnelles d'utilisateurs, la société britannique Cambridge Analytica, déjà accusée d'avoir influencé la présidentielle américaine en faveur de Donald Trump, est désormais accusée d'avoir influencé la campagne pour le Brexit. Intelligent, mais pour quelle utilité? Autour du compteur Linky, les controverses continuent, c'est ce que nous dira Jean-Marc Chardon dans son billet économique à la fin de ce journal.
Et puis la question du jour, Catherine, dans une quinzaine de minutes, était-il nécessaire de rendre l'instruction obligatoire dès 3 ans? Eh bien, on posera la question à une professeure émérite en sciences du langage, Sylvie Plane.
C'était un devoir solennel pour l'un et un choix stratégique pour l'autre. La visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à son homologue Xi Jinping en Chine a scellé les retrouvailles entre Pyongyang et Pékin, unité affichée entre les deux hommes, avant le grand rendez-vous attendu entre Kim Jong-un et Donald Trump. Et c'est la toute première fois que le dirigeant nord-coréen sortait des frontières de son pays depuis son accession au pouvoir fin 2011. La correspondance à Pékin de Dominique André.
L'hymne nord-coréen joué sous les ors du Palais du Peuple place Tiananmen à Pékin. Si la visite a été secrète, le jeune dirigeant Kim Jong-un et son épouse ont été reçus en grande pompe par les autorités chinoises. Depuis ce matin, la CCTV diffuse les images de la réception. On voit Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan invitant le couple nord-coréen à passer à table pour un banquet en l'honneur du dirigeant nord-coréen en costume gris et souriant.
Xi Jinping
dans son discours, Xi Jinping évoque une visite non officielle, mais avec un sens important pour approfondir les discussions. Le président chinois se risque même à une comparaison avec le printemps qui est de retour en cette jolie saison. La visite inédite de Kim Jong-un marque un tournant, annonce l'agence nord-coréenne. Depuis plusieurs mois, les relations entre la Chine et son voisin turbulent nord-coréen s'étaient refroidies considérablement devant l'entêtement de Kim Jong-un à poursuivre son programme nucléaire militaire. Kim Jong-un a promis d'œuvrer pour la dénucléarisation de la péninsule et il a confirmé qu'il participerait à un sommet avec Donald Trump. Cette première visite à l'étranger du jeune dirigeant nord-coréen prouve que la Chine entend rester au centre du jeu régional. La Chine montre qu'elle est un acteur incontournable dans la zone.
Et Kim Jong-un a même invité son homologue chinois Xi Jinping à se rendre à Pyongyang, invitation que Pékin a acceptée. Le dossier coréen versant économique à présent, les États-Unis se félicitent ce matin de la renégociation du traité de libre-échange avec la Corée du Sud. Le déficit commercial de Washington avec Séoul dépassait les 10 milliards de dollars l'an dernier. La Corée du Sud va accepter d'ouvrir davantage son marché automobile aux constructeurs américains et elle accepte un quota annuel d'exportation d'acier vers les États-Unis, un tiers de moins comparé aux 3 dernières années. Washington estime que ce nouvel accord commercial avec un allié clé dans la région est également un succès sur le plan de la sécurité.
Vous écoutez les matins de France Culture, c'est la suite du journal de Catherine Dutu, 5 jours après les attaques terroristes dans l'Aude. C'est un hommage national ce matin au gendarme Arnaud Beltrame.
La mort de ce lieutenant colonel de 44 ans tué après s'être substitué à une otage dans un supermarché à Trèbes a suscité une vague d'émotion internationale du pape François qui avait salué un geste généreux et courageux au président Donald Trump aux États-Unis qui a rendu hommage à un grand héros. Aujourd'hui, le cortège funéraire partira du Panthéon pour rejoindre les Invalides où Emmanuel Macron prononcera un éloge funèbre en présence de la famille d'Arnaud Beltrame et des familles des victimes des attentats de Carcassonne et de Trèbes. Arnaud Beltrame sera élevé au grade de commandeur de la Légion d'honneur. La cérémonie d'hommage national décidée par le président de la République a évolué, notamment depuis les attentats de 2015, Lise Verbeck.
À l'origine, les cérémonies pour les hommages nationaux sont réservées aux militaires morts pour la France, d'où le lieu choisi pour ces cérémonies, les Invalides, considérés comme le panthéon militaire depuis que les cendres de Napoléon y ont été transférées. Mais les Invalides ont aussi accueilli des cérémonies d'hommage à des personnalités ayant eu un destin exceptionnel. Ce fut le cas récemment pour Jean d'Ormesson, Simone Veil ou encore plus loin dans le temps de Stéphane Hessel, Michel Rocard ou encore le commandant Cousteau. Jusqu'à 2015, les cérémonies pour les civils sont donc rares. Mais après les attentats, la notion de mort pour la France a été élargie. Le premier hommage national aux invalides pour des civils victimes du terrorisme a lieu suite au 13 novembre. Aujourd'hui, pour la cérémonie d'hommage à Arnaud Beltrame, le cortège funéraire partira du Panthéon pour rejoindre les Invalides, ce qui est, à la connaissance de l'historien Christian Amalvi, une première avec une symbolique forte.
C'est un homme qui a défendu les civils, qui a défendu la société civile, donc c'est un peu le Panthéon représente un peu cette société civile qu'il a défendue. Il s'est sacrifié quand même pour sauver une femme, prendre sa place, qui est quand même extrêmement courageux. Et ensuite, il est conduit aux Invalides, qui est son lieu quand même naturel, puisque c'est le lieu des militaires, par définition. Donc il me semble qu'il y a un petit peu, on veut associer dans cette symbolique le civil et le militaire, et c'est pas mal vu.
Le cortège funéraire partira à 10h du Panthéon, passera par les quais de Seine pour arriver aux Invalides à 11h30, où débutera la cérémonie. 400 personnes y sont invitées, mais elle sera ouverte au public. La cour d'honneur peut accueillir un millier de personnes.
L'hommage national, une cérémonie qui a évolué depuis les attentats de 2015. C'est un dossier à retrouver à la une de franceculture.fr.
Et nous, on reviendra dans les matins, Catherine, sur la question de l'héroïsme dans ces temps démocratiques, avec la philosophe Cynthia Fleury qui a beaucoup réfléchi sur le courage et l'historienne Annette Becker qui, elle, s'est penchée sur la guerre de 14-18 et sur la résistance.
Et côté enquête à présent, après les attentats de l'Aude, la compagne du terroriste Radouane Lagdim a été mise en examen hier soir et incarcérée au terme de 4 jours de garde à vue. Cette convertie de 18 ans était, comme son compagnon, fichée S pour sûreté de l'État en raison de sa fréquentation des milieux islamistes radicaux. 2 hommes ont été mis en examen hier dans l'enquête sur le meurtre de Mireille Knoll, cette femme juive de 85 ans, tuée vendredi soir dans son appartement du 11e arrondissement de Paris. Il s'agit d'un voisin de 28 ans et d'un SDF de 21 ans qui ont été mis en examen, tous deux poursuivis pour homicide volontaire, et la justice a retenu à ce stade la circonstance aggravante d'antisémitisme. Et le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, organise ce soir à Paris, avec la LICRA et SOS Racisme, une marche blanche à la mémoire de Mireille Knoll. Le cortège partira à 18h30 de la place de la Nation pour rejoindre le domicile de la vieille dame, avenue Philippe-Auguste, dans le 11e. Une marche à laquelle ni le Front National ni la France Insoumise ne sont les bienvenus. Le président du CRIF, Francis Khalifa, les accuse d'entretenir l'antisémitisme en France.
Nous ne souhaitons pas la présence du Front National parce que nous considérons, nous, et ça a été démontré par les déclarations des uns et des autres, que à l'extrême droite et au Front National, il y a une surreprésentation d'antisémites, tout comme il y a une surreprésentation d'antisémites à l'extrême gauche. Donc nous ne souhaitons pas, comme nous ne souhaitons pas dialoguer avec eux dans le cadre politique, nous ne souhaitons pas qu'ils s'associent à cette marche.
Et Jean-Luc Mélenchon, qui soutient le boycott d'Israël à travers le mouvement BDS, ce boycott des investissements sanctions, il sera le bienvenu à la marche ?
Ben non, c'est ce nouvel antisémitisme d'extrême gauche qui se cache derrière l'antisionisme. Ben non, il n'est pas le bienvenu non plus, parce que l'antisionisme, ce n'est pas la critique d'un gouvernement, encore une fois, et du gouvernement d'Israël en particulier, qui est tout à fait légitime, mais c'est la négation d'Israël, c'est la délégitimation d'Israël, et nous savons que si aujourd'hui nous sommes dans la négation d'Israël, c'est de l'antisémitisme, donc tous ces gens-là ne sont pas les bienvenus.
Francis Khalifa, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, il répondait à Stanislas Vazak. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? C'est la question qui sera posée le 4 novembre prochain lors du référendum d'indépendance en Nouvelle-Calédonie, l'aboutissement de l'accord de Nouméa signé en 1998. 2 réponses possibles, un bulletin oui et un bulletin non. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé cette nuit un compromis trouvé sur la formulation de la question pour ce référendum. Au terme d'une réunion de plus de 7 heures à Matignon avec les élus calédoniens et la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. La formulation va maintenant être soumise au Conseil d'État pour être validée. Elle était déjà accusée d'avoir influencé la campagne présidentielle aux États-Unis en utilisant les données personnelles de 50 millions d'utilisateurs de Facebook pour les inciter à voter Trump. La société britannique Cambridge Analytica est maintenant accusée par le lanceur d'alerte Christopher Wiley d'avoir fait basculer les résultats du Brexit. C'est le témoignage qu'il a apporté hier pendant plus de 2 heures devant les députés britanniques, suivi à Londres par Eric Albert.
Cheveux teints en rouge, anneau dans le nez, Christopher Wylie a tenu à le préciser devant le comité parlementaire britannique, il est personnellement en faveur du Brexit. Mais selon lui, le camp du Brexit a triché pendant la campagne, notamment en dépassant le plafond des dépenses autorisées et aussi en utilisant un micro-ciblage très puissant sur Internet.
Having seen the effectiveness of the conversion rates,
j'ai vu l'efficacité des publicités mises en ligne. Elles sont incroyablement efficaces. Et il est tout à fait raisonnable de dire qu'il aurait pu y avoir un autre résultat sans cette tricherie.
Et quand les députés lui rappellent qu'il y avait d'autres facteurs en jeu, que la campagne n'était pas uniquement sur Internet, Christopher Wylie répond avec cette analogie.
When you're caught in the Olympics doping,
quand aux Jeux Olympiques on attrape un athlète qui se dope, on ne se dit pas que ça dépend de combien de dopage il a pris, ou qu'il aurait gagné de toute façon, ou qu'il n'a pris que la moitié de la dose. Ça n'a pas d'importance. Si vous êtes attrapé, on vous retire votre médaille. Parce que si on autorise la tricherie dans notre processus démocratique, qu'est-ce qu'il va se passer la fois d'après ? Et la fois encore d'après.
Les députés britanniques ont par ailleurs demandé à Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, de venir témoigner. Il l'a pour l'instant refusé, préférant envoyer à sa place un de ses lieutenants.
Éric Albert à Londres pour France Culture. En Syrie, près de 7000 combattants et civils ont quitté la Ghouta orientale hier. Le régime de Bachar al-Assad a repris le contrôle de l'essentiel de ce territoire situé près de Damas au terme d'une offensive meurtrière appuyée par la Russie. Et un ultimatum a été lancé au dernier groupe insurgé présent pour qu'il quitte ce territoire. Laure Stéphan à Beyrouth a pu joindre un opposant qui a déjà choisi de partir.
La dernière fois que nous avions parlé avec Youssouf Ibrahim, il était sous les bombes dans la Ghouta orientale. Il se trouve désormais dans le nord de la Syrie après être monté à bord des premiers convois à quitter l'enclave rebelle. Il explique pourquoi.
Je suis parti parce que je ne peux pas vivre sous l'autorité d'un régime criminel qui a détruit le pays. Pas parce que j'avais peur d'être arrêté.
Dans la Ghouta orientale, les évacuations se poursuivent. Des civils ont aussi choisi de rester sur place en acceptant une forme d'accord avec le régime. Pour ceux qui partent, c'est un long périple, raconte le jeune homme.
Nous avons passé de longues heures à l'intérieur des bus pendant que les services de sécurité nous inspectaient et cherchaient des armes. Nous sommes arrivés à destination après 24 heures de trajet.
Ce natif de la Ghouta orientale hésite désormais à rester en Syrie ou à passer en Turquie, même si la frontière est fermée.
Je vais rester quelques jours pour comprendre quelle est la façon de vivre ici et je déciderai de ce que je fais. Tout maintenant est inconnu pour moi. Je veux juste me reposer un peu et repenser aux conditions extrêmes que nous avons vécues.
Ce type d'évacuation a été condamné par le passé par les Nations Unies qui ont dénoncé un déplacement forcé de population.